Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Claude Monet, Georges Sand, Jean Gabin ou encore Anna de Noailles, voici quelques noms qui figurent au calendrier 2026 des commémorations nationales de France Mémoire. Chaque année, cette mission publie une liste de 50 dates, de personnalités, d'œuvres ou d'événements qui ont marqué notre histoire. Et il faut préciser une chose, ce calendrier n'a pas pour vocation de célébrer les pages glorieuses du passé, mais d'inviter à une réflexion collective sur des moments déterminants de notre histoire. Pour en parler, le directeur scientifique de France Mémoire est notre invité cette semaine dans l'envie de savoir. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de l'Institut. Vous êtes historien, professeur émérite à la Sorbonne, connu pour vos réflexions autour de l'idée de nation notamment, des questions qui résonnent particulièrement avec la mission que vous dirigez aujourd'hui au sein de France Mémoire depuis 2 ans maintenant. Alors je le disais, la mission principale de France Mémoire aujourd'hui, c'est d'établir un calendrier chaque année de 50 dates de commémoration nationale. Et leur point commun de ces dates, on peut dire, c'est qu'elles ont fait l'histoire de France.
Oui, elles l'ont fait et elles méritent à nos yeux, on verra qui est nous. L'Institut de France, mais d'une certaine façon, parce que l'Institut représente plus que lui-même, c'est pour ça qu'il est excellent, c'est évidemment la notion de commémoration qui résume notre mission, puisqu'il s'agit officiellement de ce qu'on appelle, non pas un service, mais une mission de l'Institut de France.
Alors, commémoration, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je vais dire quelque chose d'assez précis, fondé sur une expérience personnelle. Avant de devenir le directeur scientifique de France Mémoire, j'ai participé en tant qu'expert pendant une vingtaine d'années à la structure antérieure qui mettait en avant, dans un premier temps, un autre terme, celui de célébration. Il s'agissait d'un haut comité dépendant du ministère de la Culture, voilà le point essentiel, ministère de la Culture, pas Institut de France, et qui avait vocation à labelliser, dirait-on aujourd'hui peut-être, sélectionner des dates. On va revoir la logique de sélection des dates en ce qui nous concerne, méritant d'être célébrées. Et à quelques experts, nous avions, je me souviens par exemple que c'était la position de Pierre Nora et de Jean-Noël Jeannet, qui faisaient partie l'un et l'autre à un certain moment.
De ce comité.
Nous avions fait la remarque qu'on ne pouvait pas confondre célébration et commémoration, primo, parce que célébration introduit un jugement de valeur positif. Et vous-même, vous l'avez dit, une nation, il s'agit de la nation France, pour simplifier. On pourra peut-être discuter de savoir comment on peut intégrer aussi des étrangers dans la commémoration de la nation France. La nation s'interprète par des événements positifs, mais aussi négatifs. Et nous nous en étions rendus compte parce qu'on était amené apparemment à célébrer, alors là on avait objecté, la révocation de l'édit de Nantes. Ce qui, d'un point de vue, alors, protestant déjà, humaniste, pose quand même un problème. Est-ce qu'on va célébrer un acte de persécution contre une minorité religieuse, peu importe. Et le ministère de la Culture a mis du temps à comprendre. Régulièrement, nous acceptions de continuer à siéger, faut être très clair, tout en objectant. Et évidemment, un jour, la catastrophe a eu lieu. Il s'agissait de Céline. Il s'agit toujours des mêmes sujets. La Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, évidemment, c'est forcément ça. Et là, nous avons dit qu'il y avait un problème de célébration, mais qu'en revanche, on ne voulait pas non plus qu'on oubliât Céline. Parce que c'est ça. En quelque sorte, les points de vue peuvent devenir contradictoires. C'est-à-dire qu'on admet très bien qu'il ne faille pas célébrer Céline, mais certaines voix s'élevaient pour dire « mais il ne faut même pas le commémorer ». Alors là, non. Donc, première crise, qui s'est traduite par mise au pilon d'un premier ouvrage, enfin, on n'imagine pas, avec un ministère de la Culture qui ne savait pas exactement que faire. Nous avons obtenu un changement, au début du XXIe siècle, un changement de titre, d'intitulé. Donc, nous sommes devenus le Haut Comité des Commémorations. Et quelques années plus tard, nouvelle crise. Il s'agissait, comme par hasard, de Charles Maurras.
Donc là, on est en quelle année ? À quel moment
au début du 21e siècle. Nouvelle crise, tout simplement parce que pour nous, alors là, en revanche, en symétrie de la mise à distance d'une célébration de Céline, nous considérerions qu'on ne pouvait pas prendre une gomme historique et effacer Charles Maurras. Et voilà quand, au lieu, on se réveillait un peu tard, parce qu'à chaque fois, le ministère de la Culture se réveillait un peu tard, faisait l'objet, oui, je ne vous cache rien, de pressions politiques de tous ordres, éventuellement contradictoires, mais toujours convergentes, pour dire nous voulons censurer ou nous voulons imposer. Alors nous avons à peu près, oui, tous démissionné.
De la mission.
Donc le Haut Comité s'est arrêté là, et le ministère de la Culture s'est retrouvé bien embarrassé. Et à ce moment-là, des contacts ont été pris avec l'Institut de France. L'Institut de France a posé ses conditions, qui ont été acceptées. Et je dois le reconnaître, ce n'est pas du tout une manière pour moi d'enjoliver les choses. Depuis que c'est l'Institut de France, donc le début des années 2020, qui prend en charge la commémoration nationale, il n'y a jamais eu
de polémique.
Ce type de crise et de polémique.
Mais alors, pourquoi avoir choisi l'Institut de France en particulier ? Il fallait déjà se détacher d'un opérateur opéré par l'État ?
Mais vous venez de donner la réponse, d'autant plus que, n'étant pas à l'époque dans la négociation, j'avais été un expert démissionnaire. J'ai appris plus tard, en étant élu à l'Académie française, qu'on allait s'adresser à moi pour être directeur scientifique de France Mémoire. J'aurais pu hésiter, j'aurais pu dire non avec cette expérience que je ne qualifierais pas de traumatisante. Ce serait tout à fait excessif, mais très instructive. Mmh. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais on peut comprendre que l'État ait découvert, après plusieurs générations, pour ne pas dire plusieurs siècles, la spécificité de l'Institut de France, d'être une structure dont la première caractéristique, et ça, je vais peut-être étonner certains auditeurs, certaines auditrices en le disant, est la liberté. L'Institut de France fonctionne comme une confédération d'expertise, 5 académies, et vous l'imaginez bien, on va sans doute en parler, Marie, dans un instant, que les 5 académies sont conviées à discuter de leur propre sélection de commémoration, et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Donc il y a une forme qui est à la fois confédérale, qui n'est pas centralisée, d'autre part qui n'est pas étatique. Il faut savoir que l'Institut de France est juridiquement, financièrement aussi, très largement indépendant de l'État. Et aux dernières nouvelles, ça a été la bonne solution.
Alors donc aujourd'hui, on l'a bien compris, France Mémoire est abritée à l'Institut de France. 50 dates sont retenues chaque année dans le calendrier. C'est peu, 50 dates. Ça suppose de faire des choix. Quels sont les principes de sélection des dates de ce calendrier ?
Ce chiffre 50 est peut-être magique. Il rythme d'abord les types de commémoration, c'est-à-dire qu'il s'agit de cinquantenaires ou multiples de 50. Centenaires, 150,
200 ans, 250.
D'autre part, il y a non pas 50, mais une cinquantaine de dates. On joue là-dessus pour faire que, par exemple, certaines années, on ait réussi à sélectionner 59 dates.
Ah oui, ça peut aller jusqu'à 59.
Mais ce n'est pas une obligation non plus, donc c'est une cinquantaine. Ça veut dire qu'à la fois, nous intégrons des contraintes qu'on peut considérer comme arbitraires, mais c'est fondé aussi sur l'expérience, je répète, un peu désastreuse, du Haut Comité du ministère de la Culture, qui, par exemple, s'était mis à gonfler, il n'y avait pas de chiffres. Donc évidemment, très logiquement, les premières années, on était très restrictifs. Et puis à la fin, on était complètement débordés. À un moment, par exemple, c'est une vraie question. Ce sont des questions philosophiques qui se posent. C'est passionnant. On s'était dit, enfin certains membres du Haut Comité s'étaient dit, mais il faut parler quand même de Shakespeare ou de Goethe, qui ont une telle influence sur la France. Oui, mais vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage, on n'en sort plus. Donc, ces contraintes, ces arbitraires sont excellents. Vive l'arbitraire.
Et donc là, vous venez de parler de Shakespeare et de Goethe. Dans le calendrier actuel de France Mémoire, ne sont retenues que des dates, des événements, des figures de nationalité française ?
Pas de nationalité en rapport avec la France.
En
par exemple, on s'est posé la question de Ramu, l'auteur suisse. Mmh. On a discuté, puis on s'est dit que compte tenu du caractère francophone d'ailleurs de son œuvre, eh bien on l'intégrerait. On s'est posé la question de Jacques Tourneur, grand cinéaste principalement américain, mais comme son nom l'indique, d'origine française, fils d'un cinéaste moins important, Maurice Tourneur, mais dont il fallait aussi conserver la mémoire. On a conservé finalement Jacques Tourneur. Mmh. Vous voyez, ce sont des aménagements subtils, mais qui vont en général dans le sens de l'ouverture.
Alors vous dites « on a choisi, voilà. Nous », mais alors qui se cache derrière ce « on » C'est vous, Pascal Horry, qui choisissez toutes ces dates ?
Évidemment pas. C'est, comme je le disais tout à l'heure, confédéral. Les 5 académies se réunissent. Alors, désormais, nous sommes dans notre vitesse de croisière une fois par an. Mm-hmm. Mais par exemple, l'année dernière, l'année civile dernière, nous sommes encore réunis deux fois pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse travailler, aujourd'hui en 2026, sur 2029.
Donc, vous prenez énormément d'avance.
Et nous nous réunissons dans un grand moment de convivialité où les secrétaires perpétuels et un nombre variable de délégués pour chaque académie se réunissent à partir de propositions qu'on leur a envoyées en amont, vous imaginez bien, et qu'ils peuvent discuter en disant « là, nous ne sommes pas très convaincus, et puis vous avez oublié ceci et cela ». Donc on peut aborder ce genre de réunion avec un peu de crainte, pas du tout, ça se passe franchement très bien. Mais je prends des notes parce que je comprends mieux ce qui me tel ou tel, alors académicien, mais surtout tel ou tel académie, hein, puisque ces membres, les délégués et secrétaires virtuels, sont là au nom de l'ensemble de leurs confrères et de leurs consoeurs. Vous imaginez bien, par exemple, qu'il y a des arbitrages à trouver, et on les trouve, entre, par exemple, beaux-arts et sciences. Mmh. Évidemment, l'Académie des beaux-arts peut dire « Oh, il n'y a peut-être pas assez de sculpteurs ou de peintres. Oui, mais y a-t-il assez de physiciens et de chimistes ?»
Oui, il faut une représentativité.
Voilà. Et on s'en sort.
Alors, ça fait combien de personnes au total? Parce que vous, donc, il y a tous les secrétaires perpétuels de chaque académie, oui. Il y en a cinq, sont présents lors de ces réunions annuelles. Certains délégués, vous dites?
Certains délégués, oui.
Donc, on a à peu près à une dizaine, une vingtaine de personnes qui choisissent.
Oui, même un petit peu plus qu'une vingtaine. Voilà.
Qui
discutent, qui peuvent remonter en amont, puisque les listes préparatoires leur sont envoyées évidemment à l'avance. Mm-hmm. Et chaque année, je pense qu'on affine, on perfectionne les critères. Vous voyez, par exemple, en effet, quel rapport à la France, à la francité, à l'usage de la langue, quand c'est un enjeu. Qu'en est-il des dates floues? Nous avons en 2026 une date incertaine encore sur l'invention de la photographie. C'est tout à fait passionnant parce que même le flou, si j'ose dire, à propos de photographie, est intéressant, puisqu'on hésite entre 2026-2027 pour le point de vue du gras de Nicéphore Niépce.
Qui serait le premier tirage photographique connu
de
l'histoire.
Alors, il y a une discussion déjà entre français et anglais, très souvent, pour dire, mais il y a peut-être quand même un photographe anglophone anglais qui aurait précédé. Toujours est-il que au niveau français, on a décidé de choisir les deux années à la fois. Donc, des commémorations, puisque tout ceci, on va en parler sans doute, a des effets sur le terrain. Des commémorations prises en charge par des institutions culturelles, privées ou publiques, d'ailleurs, complètement libres. Mmh. Sur ce plan-là, on pourra y revenir aussi. Vont commencer à commémorer, donc aussi célébrer si elles le veulent, mais elles ne sont pas obligées, l'invention de la photographie, pour simplifier, en 26, et d'autres vont continuer en 27.
Mmh. On commémorera les 200 ans...
Oui, 1826.
27. Ou 1827, voilà. De ce premier tirage photographique. J'en reviens aussi à ce comité de sélection composé d'académiciens. J'imagine que dans ce comité, il y a aussi une diversité, à la fois thématique et dans le parcours de ces personnalités d'académiciens qui choisissent les dates.
Oui, l'expérience prouve quand même quelles sont ces personnalités porteuses de toute une mémoire de leur domaine. Mmh. Hein, on sent bien que les représentants de l'Académie des Beaux-Arts sont soucieux de ne pas oublier une forme d'art. Si on commémore un architecte, il ne faut pas oublier les peintres, les sculpteurs, etc. La bande dessinée, il faut le savoir, j'étais pendant 40 ans de la main gauche critique de bande dessinée. Donc la bande dessinée est entrée, il y a déjà, disons, deux ans, à l'Académie des Beaux-Arts. Et par exemple, en 2026, nous allons commémorer la naissance de René Goscinny. Donc, c'est la notion d'art au sens le plus large, le plus complet du terme. Mmh. Même chose pour les sciences. Étant bien entendu que, en termes de domaines, vous avez des domaines qui touchent à la société, la technologie, le premier vol du Concorde, la fondation de l'agence de publicité Publicis, par Marcel Blestein-Blanchet. Donc, on essaye d'être le plus large possible. Chronologiquement parlant, nous commençons au Moyen-Âge. L'une des difficultés de nos confrères consoeurs médiévistes, c'est que souvent les dates sont franchement floues en ce qui concerne le Moyen-Âge. Ils le comprennent bien, mais nous avons, par exemple, cette année, l'accession au trône de Louis IX, futur Saint-Louis, et donc de la régence de Blanche de Castille. Mmh. Et là, ça nous permettra peut-être tout à l'heure de revenir sur la question des femmes dans cette liste honorable.
Donc il y a une sorte quand même d'équilibre entre les périodes représentées entre le Moyen-Âge et
la période contemporaine. Je le dis non plus que je suis contemporaniste, j'ai à charge de freiner un peu, et quand même assez valorisé, parce que cette logique de commémoration, cette logique aussi, prenons le cas des femmes, C'est quand même extrêmement difficile de trouver des femmes remarquables dans des domaines où, qui leur étaient interdits il y a quelques siècles. Donc, nous sommes tout à fait volontaristes sur ce plan-là, mais il y a des limites. Donc, l'équilibre entre périodes ne peut pas être absolu. On peut dire qu'à partir du début du 19e siècle, on est dans le secteur où il y a le plus de commémorations évoquées.
Alors, vous, en tant que directeur scientifique de France Mémoire, votre rôle, c'est donc d'orchestrer toutes ces dates à côté de votre équipe, bien sûr, parce que vous n'êtes pas tout seul.
Ah non
derrière France Mémoire. Vous, c'est un rôle d'orchestration, on peut le définir comme ça.
Ah, il faudrait poser la question à Laurent Petit-Girard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts,
qui est musicien.
Entre autres, chef d'orchestre, mais pas que, un grand compositeur. Oui, alors, c'est très important que vous m'ameniez à parler de ça. Tout ceci, c'est un temps où on labellise, où le public est prévenu, et d'ailleurs, vraisemblablement, maintenant que nous sommes en vitesse de croisière, à la fin de l'année 2026, nous commencerons déjà à l'automne à évoquer l'année 2027. Pour qui ? Pour les médias, pour les collectivités locales, pour les administrations publiques, pour le plus large public, qui souhaitent
se saisir et organiser des événements.
Courant. Et vous imaginez qu'en ce qui concerne les médias, prenez par exemple, j'ai fait l'objet de démarches de ce côté-là, des documentaristes, des cinéastes de documentaires, ils ont envie de savoir ce qui va être célébré dans 3 ans. Parce que compte tenu du temps qu'il faut pour monter un projet audiovisuel, oui, donc c'est pas fou non plus de prendre tellement d'avance. Et cela veut dire aussi que sans tarder, donc chaque année, à chaud en quelque sorte, nous proposons pour chacun de cette cinquantaine d'anniversaires un dossier documentaire que le service, coordonné par plusieurs personnes de grande qualité, le service élabore une sorte de dossier. De dossiers de presse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut reprendre des documents déjà publiés, en commander aussi. Donc nous essayons de faire en sorte qu'il y ait la plupart du temps un texte inédit pour chaque commémoration, ce qui est une contrainte assez lourde. Ce qui fait d'ailleurs que ces dossiers ne sont prêts que quelques temps avant la date elle-même. Mais ça y est, nous sommes dans notre vitesse de croisière, j'insiste beaucoup sur le terme. Par ailleurs, nous pouvons organiser exceptionnellement un événement, mais pas beaucoup plus qu'un événement, au sein de l'Institut de France. À vrai dire, on ne nous en demande pas plus dans la société. Je veux dire que la société se saisit de Michel Foucault, de René Goscinny, de Paul Bocuse, chacune et chacun à sa manière. Mais nous tenons à marquer d'une pierre blanche. Nous avons organisé pour l'année 2025 une demi-journée merveilleuse, extraordinaire, avec des centaines d'élèves dans l'auditorium Bettencourt de l'Institut de France, autour du film de Claude Lanzmann, puisqu'il y avait un anniversaire Claude Lanzmann.
On fêtait le centenaire de sa naissance en 2025.
Et c'était donc autour de Shoah. C'était pas autour de Claude Lanzmann en général, c'était Claude Lanzmann à travers cette œuvre assez extraordinaire au sens étymologique, sortant de l'ordinaire, qui est Shoah. L'année précédente, nous avions saisi l'anniversaire de la première femme bachelière en France au 19e siècle, pour poser la question, avec l'aide entre autres de l'Académie des sciences, qui venait de publier un rapport sur les femmes dans leur rapport aux mathématiques, vous savez, le fameux problème du déficit de femmes dans certaines
dans
disciplines scientifiques,
oui,
en particulier les mathématiques, pour l'enseignement d'abord, pas seulement pour la recherche, eh bien nous avons organisé, entre autres avec l'Académie des sciences, mais toutes les académies y ont participé, à une réflexion sur ces questions-là, à travers l'occasion, c'est pas un prétexte, c'est une occasion, de cet anniversaire autour de la première femme bachelière. Donc, cette année...
En 2026,
nous avons sélectionné André Malraux, parce qu'il a l'avantage d'être incontestable sur le plan de l'histoire de la littérature. Il peut enseigner les enseignants et intéresser les enseignants sur ce plan-là. Mais par ailleurs, il a été ministre de la Culture. Entre les deux, c'est un intellectuel engagé, donc il est présent sur plusieurs terrains. Nous ne serons d'ailleurs pas les seuls. Hein. L'Académie des sciences morales et politiques souhaite prendre en charge aussi une commémoration d'André Malraux, ainsi que le comité d'histoire du ministère de la Culture. Donc, à chaque fois, fort heureusement, nous sommes rejoints par d'autres institutions, y compris donc des académies qui décident, par exemple, de commémorer René Cassin, qui figure dans notre liste.
Donc,
évidemment, grand juriste, comme on le sait.
Donc, on comprend bien qu'en 2026, il y aura donc cet événement autour d'André Malraux. Vous expliquez que pour chaque événement, pour chaque commémoration, un dossier est publié. Il peut y avoir, pour un même événement, pour une même figure commémorée, plusieurs notices pour proposer différents regards sur cet même événement, sur cette même figure. Ça c'est très important, il me semble, pour France Mémoire, de prendre en compte une pluralité de voix.
Une seule notice composée de plusieurs textes, y compris des textes relativement anciens qui nous paraissent intéressants.
Et ça, cette pluralité de voix, c'est important pour cette question.
Nous sommes des lanceurs, non pas d'alerte, mais des lanceurs de commémoration. Après, la société fait ce qu'elle veut. Elle peut dire beaucoup de mal de telle personnalité ou de tel événement.
Ça permet de désamorcer aussi certaines controverses polémiques.
Je ne sais pas si ça désamorce. En tous les cas, nous ne sommes pas le lieu de l'entretien d'une polémique. Bien entendu, on peut mentionner, effectivement, au passage, que tel ou tel personnage a fait l'objet de débats, voire de polémiques. Après, c'est la société qui va décider. Alors, j'insiste sur le rôle de la société. On pourrait se dire, mais c'est où la société ? C'est un peu partout. Et c'est assez français que de considérer qu'il va y avoir un lieu où on va réfléchir en commun à la commémoration. Beaucoup de pays ne le font pas. Nous avons quand même une tradition unitaire, je ne dirais pas centraliste sur ce plan-là, puisque les académies, l'Institut de France ne sont pas, par définition, une structure centraliste, mais à la fois pluridisciplinaire et, j'insiste sur le mot, confédéral. Mais d'autres pays ne le font pas. Donc il faut trouver un équilibre. Je pense que, désolé de paraître flatté l'Institut de France, mais je ne me force pas du tout en le disant, je pense que la France a trouvé un bon équilibre. Ne pas réfléchir collectivement à la commémoration, je pense que c'est inquiétant. Je le dis. Nous sommes le pays qui a inventé la notion moderne de panthéon. Il y a des pays qui ont un panthéon, il y a un panthéon portugais, par exemple, tout à fait intéressant. Donc, il y a des pays qui ont eu le même réflexe que nous, d'autres qui considèrent que, non, c'est une sorte d'intrusion. Non, je pense que c'est un bon équilibre. Il y aurait beaucoup de choses à dire, après, sur le choix des panthéonisés, etc.
Oui. Bien sûr. Mais pour revenir sur la mission de France Mémoire, vous disiez qu'il n'y a pas d'équivalent à l'étranger de cette mission de commémoration.
Non, je pense qu'il y en a. Mais ils ne me sont pas connus, donc je suis prudent. Et je vois plutôt, en revanche, des pays qui disent « Ah ben nous n'avons pas l'équivalent parce que on laisse laisser la société choisir », ça consiste aussi, je m'engage en disant ça, à laisser le marché, par exemple, choisir, en fonction de considérations, par exemple, commerciales. Ah ben oui, celui-là, ne serait-ce que parce qu'il va être justement polémique, allons-y. Donc on essaye de trouver un équilibre, il n'y a jamais de perfection en ce bas monde.
Alors, on va parler du calendrier 2026. On a commencé un petit peu à en discuter tout à l'heure. Il est disponible sur le site de France Mémoire. Et donc, parmi les 50 dates commémorées cette année, il y a par exemple la naissance de Sophie Germain. Sophie Germain, c'est une mathématicienne
qui a donné son nom à un lycée à Paris. Donc, on peut la connaître pour ça. Mais je pense qu'il faut accompagner cet hommage. Mais si on continue du côté des femmes, alors je suis explicite parce que nous sommes conscients, pas simplement à France Mémoire, mais aussi au sein de l'Institut de France, qu'il y a une question pouvait être marquée par, pendant longtemps, la très faible présence de femmes dans les académies. Bon, tout ça est en train de bouger rapidement, il faut s'en féliciter. Mais du coup, nous sommes quand même, il faut le reconnaître, volontaristes. Nous acceptons l'idée que nous sommes volontaristes. Ce qui fait qu'il y a des noms de femmes qui ne sont pas toujours très connus, et nous tenons à les mentionner. En 2026, par exemple, Valérie André.
Alors, qui était-elle ?
Qui a été la première femme officier général de l'armée française. Vous avez Jeanne Chauvin, c'est pour sa mort en l'espèce, qui a été la première femme avocate. Et puis vous avez, bien sûr, Georges Sand, ça ne pose aucun problème, mais Marie Dagout, alias Daniel Stern, n'est pas forcément très connue, sauf de quelques historiens de la littérature. Donc, voilà, ça nous paraît important. De temps à autre, quand ça se présente, bien entendu, nous sommes sensibles à la question, alors ça ne s'est pas vraiment posé cette année, des territoires et départements d'outre-mer. Bon, pour considérer que, évidemment, la France, ça ne se limite pas à la métropole. Vous voyez, il y a plein de considérations de cet ordre. Je pense qu'on peut considérer qu'on n'a pas oublié quelque chose d'essentiel dans ce domaine. Si on ne considère pas seulement cette dimension dite genrée, là, on peut reconnaître que nous ratissons large, disons, que en littérature, vous avez aussi bien Raymond Queneau que, en effet, George Sand. Oui. Des sensibilités, des époques très, très différentes. Dans le domaine des arts, Gustave Moreau met aussi Brancusi, Max Ernst. Bon, nous ne sommes pas préoccupés de ces équilibres en permanence, mais à l'arrivée, nous sommes très contents qu'il y ait à la fois Jacques Monod du côté de la physique ou Michel Foucault du côté de la philosophie.
Donc toutes ces personnalités figurent sur le calendrier 2026. Vous avez cité à la fois des noms moins connus, comme Sophie Germain tout à l'heure, et des personnalités qui le sont beaucoup plus, comme Raymond Queneau, Georges Sand. C'est aussi une volonté de France Mort de créer un équilibre entre des repères communs que tout le monde connaît et puis mettre en avant aussi des figures oubliées qui méritent d'être plus mises en lumière.
Des figures oubliées maintenant, ou parfois oubliées depuis l'origine.
Ouais.
Ajoutons que là, on parle de naissance et de mort ou de personnalité, mais les événements sont nombreux et de toutes sortes. On a cité la première photographie, semble-t-il. On se préoccupe d'autres formes d'œuvres d'art, par exemple, après moult réflexions, bien entendu. La part d'arbitraire n'est pas grave. On a sélectionné le tableau d'Auguste Renoir sur le bal du Moulin de la Galette. Mais il y a aussi, je crois mentionné tout à l'heure, le premier vol du Concorde. Mais aussi la condamnation de l'Action française par le pape en 1926, qui a été un traumatisme dans les milieux d'Action française. Je citais aussi, nous citions ensemble, Publicis. Bon, il y a toutes sortes d'événements. Et je pense qu'il faut être sensible non pas à ce qui manque, mais à ce qu'il y a, et à cette sorte de mosaïque qui s'appelle la France.
Alors, ce n'est pas une mission aisée. La société française est marquée par la pluralité des mémoires. Comment France Mémoire peut contribuer à faire émerger quand même néanmoins des repères communs ?
Écoutez, à partir du moment où nous existons, plutôt que pas. Ça aurait pu être la conclusion, là, vers l'an 2018-2020. Bon, on arrête tout. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes un lieu de convergence, de rassemblement, et nous contribuons au dialogue aussi. Cela conduit les académiciens à prendre en considération, d'abord au-delà de leur spécialité, puisque en dehors de l'Académie française, qui est spontanément viscéralement pluridisciplinaire, comme on ne le dit pas, mais enfin c'est quand même le bon mot, les autres académies sont organisées en sections. Donc on peut dire que là, les mailles du filet sont plus étroites et qu'on risque moins d'oublier, en quelque sorte. Mais en dehors de la française, on peut dire que les différentes sections, prenons effectivement le cas des Beaux-Arts, c'est tout à fait intéressant, désormais la bande dessinée fait entendre sa voix, et pas simplement à travers le cas de Goscinny, et c'est une excellente chose. Donc, la simple existence de cette mission, de ces réunions désormais annuelles, mais préparées en amont, de ces documents qui sont diffusés toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, on ajoute chaque semaine, il faut quand même le savoir, un dossier.
Et disponible en archive aussi,
tout à fait, et nos auditeurs, auditrices peuvent y accéder très facilement. D'ailleurs, c'est un des charmes de cette maison, je parle non pas de France Mémoire, mais de l'Institut de France, l'accessibilité libre et gratuite, c'est quand même la règle.
Des
pour le dictionnaire de mon aussi. Académie, c'est le cas. Accessibilité libre et gratuite. Mais il faut le répéter parce qu'une bonne partie de la fameuse société dont je parle sans arrêt, là, avec vous, l'ignore. Hein.
Voilà.
Un peu de publicité, un peu de podcast, ne m'essayez pas.
Vous faites bien. On a parlé de cette personnalité, Georges Sand, qui est décédé en 1876. Elle figure aussi au calendrier. Certaines voix se sont élevées en 2025 pour la faire rentrer au Panthéon. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable en 2026.
Mais elles se sont exprimées beaucoup plus tôt que ça. De même qu'il y a eu des propositions d'Albert Camus et qui n'ont pas abouti pour diverses raisons. Dans le cas de Georges Sand, il faut le savoir, ça a été la réticence des concitoyens de la région du centre de la France, en particulier du département de l'Indre, a considéré que la bonne dame de Nohant devait rester dans l'Indre. Mais c'est aussi clair que ça. Et à ce moment-là, le gouvernement a reculé. Hein. Il est vraisemblable que maintenant, les conditions sont différentes. Vous m'amenez à parler des panthéonisations, mais il se trouve que j'étais associé à plusieurs démarches de panthéonisation, à Joséphine Baker, Missak Manouchian, etc. On voit très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, on est en train de basculer dans l'hypothèse du cénotaphe. Non pas pour tous, mais pour tous ceux qui disent « Écoutez, le corps va rester dans le cimetière originel, mais en revanche, au Panthéon, on va installer un symbole. Donc, ce sera un tombeau vide. » Vous voyez, donc, il y a des solutions. Georges Sand a de fortes chances de se retrouver dans les prochaines années au Panthéon, parce qu'il n'y aura plus cet obstacle, qui philosophiquement est intéressant, du corps que l'on transfère. Même chose, vous le savez, pour la présence des conjoints. Notre sensibilité du XXe siècle supporte difficilement qu'on sépare désormais les conjoints. Alors que c'était pas imaginable au XIXe siècle. Il y avait le héros, qu'il ait une épouse, n'était pas pris en compte. Ça, c'est passionnant pour un historien de voir comment on n'est plus dans la même disposition d'esprit face à la commémoration, à la célébration, à la panthéonisation.
Je voulais vous poser une dernière question, Pascal Horry. L'objectif derrière ce calendrier, vous l'avez dit déjà dans cette interview, c'est que des gens se saisissent de ce calendrier. On a parlé des sociétés de production, par exemple, des villes, des communautés territoriales. Et puis, il y a aussi l'éducation nationale, les professeurs, parce que la commémoration fait partie aussi de la formation du citoyen.
Merci Marie d'insister là-dessus. J'ai cité le cas de Shoah récemment, oui. C'est encore tout récent, hein, la fin de l'année 2025. Ça n'avait de sens que parce que la Direction Générale de l'Éducation Nationale, dite la DGESCO, s'est investie clairement là-dedans. Les enseignants étaient très présents avec une partie de leurs élèves lors de cette manifestation. Nous tenons beaucoup à ce que l'Éducation Nationale ne soit pas simplement un relais de l'Institut, mais en tous les cas, prenne au sérieux cette démarche parce que on pourrait dire, oui, ces jeunes, là, ces ados, ça doit être très loin pour eux, ça doit paraître poussiéreux. Pas du tout, c'est passionnant. Parce que vous avez des personnalités, vous avez des événements. Et fort heureusement, l'éducation nationale est sur ce plan-là au taquet.
Et on invite tous les professeurs qui nous écoutent à se rendre sur le site de France Mémoire. Vous y trouverez le calendrier 2025, mais aussi tous les calendriers précédents, des années précédentes. On les invite aussi à suivre le compte Instagram de France Mémoire, qui publie chaque semaine des nouveautés et les dossiers publiés de l'année. Merci Pascal Horry.
Les podcasts de l'Institut de France.